Un tango, une danse, un baiser et un sourire.
Par les temps qui courent,
ça y est, puis 21h.
Marie-Richeux.
Il y a des figures qui nous ouvrent des portes, justement. Parfois, ces figures, ces êtres ne le savent même pas. Quelque chose a lieu pour nous, sans qu'on le sache.
Chère imagination, ce que j'aime surtout en toi, c'est que tu ne pardonnes pas. La phrase apparaît légèrement distincte du reste du corps du texte dans le manifeste surréaliste d'André Breton en 1923 qui dit aussi « Chaque matin, des enfants partent sans inquiétude. Tout est prêt. Les pires conditions matérielles sont excellentes. Les bois sont blancs ou noirs, on ne dormira jamais. Mais il est vrai qu'on ne saurait aller si loin. Il ne s'agit pas seulement de la distance. Les menaces s'accumulent, on cède, on abandonne une part du terrain à conquérir. Cette imagination qui n'admettait pas de bornes, on ne lui permet plus de s'exercer que selon des lois d'une utilité arbitraire. Elle est incapable d'assumer longtemps ce rôle inférieur et aux environs de la 20e année, préfère en général abandonner l'homme à son destin sans lumière. » Barbara Carlotti, vous n'abandonnez ni la lumière et vraiment pas du tout les rêves dont votre nouveau disque est nourri. Il s'appelle Magnétique, il est paru sur le label Elektra chez Warner. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue.
Merci.
Dans la dynamique du livre, entre le moment où j'ai commencé à noter ces rêves et le moment où j'ai achevé le livre, je me suis rendu compte que ces rêves étaient faits pour être écrits. C'est un peu ce que, par exemple, en psychanalyse, on appelle des rêves de complaisance. Des rêves qui sont faits pour faire plaisir au psychanalyste. Là, c'était des rêves pour faire plaisir à l'écrivain. C'était des rêves dont l'unique fonction, c'était des rêves qui se présentaient à moi avec leur titre, avec leur paragraphe pratiquement, avec leur ponctuation, avec leur système particulier de présentation. C'était des rêves qui, disons, à la limite, sortaient tout écrit. La chose qui se passe en général, c'est, bon, on fait un rêve. Et ce rêve, en général, ou bien on l'oublie, on se souvient d'avoir rêvé, ou bien on ne se souvient pas, on le raconte, parfois on l'écrit. Comme tout livre, il est tendu entre deux demandes. L'une qui est d'ordre personnel, enfin, pratiquement même d'ordre intime, et l'autre qui est une préoccupation littéraire. Finalement, ils étaient ce qu'ils sont devenus pour moi, des poèmes.
C'est la voix de Georges Perec dans une archive de 1976. Barbara Carlotti, pour parler des rêves avec vous, est-ce que parfois vous faites des rêves de complaisance, comme il dit, des rêves de complaisance pour la chanteuse ?
Je pense qu'on fait plein de rêves de complaisance pour différentes parties de nous-mêmes, effectivement. Mais oui, il y a une chanson sur cet album magnétique qui s'appelle Voir les étoiles tomber. Je pense que c'est un rêve de complaisance. J'ai rêvé du refrain en entier, ficelé, mélodie et texte. Et j'ai eu à composer la chanson autour, mais le refrain était fait. Et je pense que c'était pour me... Il y avait quelque chose, voilà, de... C'était mon travail, en fait, et je m'en suis occupée une nuit, comme ça. Mais les rêves de complaisance, c'est bien. Ça veut dire qu'on est préoccupé par son travail et que le cerveau continue à travailler la nuit pour nous. Mais qu'il s'ouvre aussi à des territoires plus vastes de réflexion. Et il faut être ouvert pour en profiter, en fait, dans la journée, il faut les noter absolument pour en profiter. Mais c'est une complaisance qui n'est pas si complaisante que ça.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça peut être complaisant, mais surprenant à vous entendre. Mais continuez d'être surprenant.
Oui, je pense que, en tout cas, il faut ouvrir son esprit au rêve. En tout cas, pour moi, en tout cas, c'était pour cet album, c'était l'exercice. Donc, forcément, j'étais réceptive à ça. Mais ça m'a demandé aussi d'accepter de prendre des choses que j'aurais pas prises volontairement. Le refrain de voir les étoiles tomber, je sais pas si je l'aurais moi-même fait ou choisi. J'ai accepté de me laisser guider par cette pensée, cette énergie, en fait, du sommeil.
Il y a quelque chose dans ce disque, en effet, qui relève du laisser-faire. J'ai l'impression que vous vous êtes laissé traverser par quelque chose de un petit peu plus grand que vous. Alors on peut dire ça de manière générale, quand on parle un peu avec grandiloquence de l'inspiration. Mais là, j'ai l'impression que quelque chose vous traverse.
Bah oui, oui, bah parce que en fait, je me suis vraiment donné une discipline de travail, une méthode que j'avais jamais, je pense, travaillé selon une méthode. Et là, je me suis enfermée un mois dans une maison et j'ai prélevé systématiquement toutes les heures et demie la nuit ce qui se passait, quoi. J'ai vraiment fait ça, comme dans les laboratoires du sommeil où on étudie le rêve, ou comme faisait Von Vogt, qui a écrit Le Monde des A, enfin des auteurs de science-fiction aussi pratiqués, c'était vraiment des techniques, comme les surréalistes. Enfin, vraiment, je me suis intéressée au rêve, mais de façon presque un peu scientifique, c'est-à-dire comment ça fonctionne la nuit de cerveau, et comment on peut prélever cette matière-là. Et je pense qu'en effet, tout ce que j'ai mis dans les chansons, ça vient pas d'une volonté de la chanteuse, de l'auteur-compositrice que je suis, mais ça vient d'autre chose. Ça vient du plus profond de mon inconscience ou du plus profond de ma conscience, en fait, finalement.
Quand vous dites, vous vous êtes donné la discipline de noter ou prélever toutes les heures et demie, encore faut-il se faire réveiller ou être réveillé?
Ah ben, j'ai mis des réveils. J'ai mis des réveils. En fait, quand on se programme, au bout d'un moment, s'habitue. Le cerveau s'habitue, donc c'est assez facile. Et puis moi, je rêvais énormément. J'avais toujours tenu des carnets que j'avais pas du tout consultés au fur et à mesure du temps. Un peu pour des exercices de psychanalyse personnelle, mais ça touchait pas mes chansons. Enfin, j'avais pas fait communiquer ça. Donc là, c'était vraiment, il y avait vraiment cet effort. Le cerveau s'autodiscipline assez vite quand on se dit que déjà on va se souvenir de ses rêves et puis qu'ensuite on va s'en servir et puis qu'on va les prélever. En fait, il y a un petit mécanisme qui se met en place la nuit. Donc on met son réveil d'abord, puis on enregistre. Enfin, moi j'enregistre avec mon iPhone ou j'écris. Mais souvent j'enregistre et c'est assez drôle parce qu'il y a vraiment une voix du sommeil qui est vraiment incroyable, quoi. Enfin, qui est touchante aussi parce qu'elle est toute petite, elle est toute rentrée, quoi. Ça fait des documents assez marrants à réécouter. Et puis voilà. Puis après, ça se met en place en fait assez facilement. Donc après, c'est un travail en fait comme un autre. Et après, moi, ce que j'avais fait, c'est que je récoltais tout ça, je réécoutais. Je réutilisais, je renotais. Il y a des scénarios, il y a des mélodies, il y a des harmonies, il y a des idées. Il y a toutes sortes de choses en fait la nuit. Donc et on peut vraiment agir dessus. Il y a un bouquin assez intéressant et assez précurseur finalement pour la science des rêves, qui est celui de Hervé de Saint-Denis, Le rêve ou les moyens de les diriger, qui est un livre du XVIIIe siècle. Et il a commencé, lui, il avait une méthode, il a commencé à peindre, en fait, ses rêves, à les dessiner. Et puis ensuite, il s'est rendu compte qu'il pouvait agir dessus, et donc il a commencé, et c'est lui qui a découvert les rêves lucides, c'est lui qui a donné même le nom rêve lucide. En fait, à force d'intervenir sur ses rêves, on peut aussi faire des choses à l'intérieur assez étonnantes.
Ce qui va un peu dans le sens de ce que vous avez essayé de faire avec le laboratoire onirique ou les laboratoires oniriques, c'est que d'un seul coup, vous faites des propositions à la conscience, aux consciences ou aux ensommeillés que vous réunissez. Vous pouvez raconter un petit peu cette expérience-là?
Les laboratoires oniriques, c'était un mélange. Ça, c'était plus pour nourrir un peu ma réflexion et puis pour voir aussi. Il y a quand même beaucoup de tendances artistiques qui ont utilisé les rêves. Donc, je voulais réunir un peu ces savoirs et je voulais les réunir à la lumière des nouvelles découvertes scientifiques qu'on faisait aujourd'hui et les mettre et les habiller par des chansons, en fait. Donc, j'avais pris des textes des surréalistes, de Breton, de Soupeau, de Jonathan Coe, des romans aussi, de Hervé de Saint-Denis. Enfin, il y avait beaucoup de choses. Artémidor de Daldis, l'Antiquité aussi. Il y avait vraiment... J'essayais de faire une sorte de... En fait, je faisais des chemins, en fait. Je faisais des chemins de réflexion. C'est-à-dire, je commençais par un texte et puis, en tirant les fils, j'en trouvais un autre qui correspondait, qui faisait un écho. Je trouvais des ouvrages scientifiques, par exemple, chez Michel Jouvet, ou ou encore Isabelle Arnulf, qui a écrit très récemment beaucoup de choses sur les rêves et qui travaille à la Pitié Salpêtrière. Et je faisais des chemins comme ça qui faisaient des allers-retours entre textes littéraires, textes scientifiques et musique. Et donc il y avait des chansons, il y avait plein de chansons, il y avait des chansons de Philippe Catherine sur le rêve. Il a beaucoup utilisé ses rêves, Philippe Catherine, pour composer, donc c'était assez facile chez lui. Mais voilà, il y a Bachung, il y a Madame Rêve, mais ça faisait des échos en fait musicaux, poétiques à tout ça. Et donc pour moi c'était naviguer vraiment sur ces chemins de pensée, de poésie, de réflexion, de musique.
Qu'est-ce que vous avez appris de la science contemporaine qui vous a éclairé autrement? Parce que vous dites, non seulement il y avait tout cette matière artistique, de pensée artistique, de création, et puis à la lumière de ce qui se découvre en ce moment sur les rêves, par exemple.
Ce qui se découvre en ce moment...
Et qui vous a interpellé.
En fait, ce qu'avait, je pense, pressenti, voilà... Hervé de Saint-Denis, mais aussi les surréalistes, c'est qu'en fait on pense tout le temps, en fait le cerveau s'arrête jamais. Ça c'est prouvé, on le voit la nuit. Maintenant on arrive à faire le chemin des neurones, on arrive à voir précisément. Ça c'est fascinant d'ailleurs de voir à quel point en fait maintenant avec l'imagerie cérébrale magnétique, on peut voir comment les idées circulent, les neurones circulent d'un endroit à un autre et à quoi ça correspond en fait dans le cerveau. Donc on pourra presque bientôt, j'imagine, on pourra mettre des électrodes ou on pourra se mettre dans une machine de magnétoencéphalographie puis voir en fait quand on rêve comment ça circule en fait dans le cerveau, où les idées sont résident en fait précisément. Ça, c'est assez fascinant. C'est assez fascinant aussi de savoir qu'en effet, la pensée des rêves, c'est une pensée en fait. C'est une pensée, comme disait Sarah, c'est une pensée par plaque, par image et par plaque, mais c'est une pensée. Et donc, après, moi, je trouve que le danger, en fait, maintenant, avec les découvertes qu'on fait, c'est que le rêve va devenir quasiment utile. Et moi, j'ai pas du tout envie qu'il devienne utile. J'ai envie que ça reste un terreau de création. Alors, il y a plusieurs, il y a quand même plusieurs... parce que la science, c'est aussi des courants de pensée particuliers. C'est des suppositions qu'on vérifie avec le temps, mais... Il y a ceux qui pensent que le rêve, en fait, c'est les neurones qui s'agitent dans tous les sens. Et du coup, ça vient sortir des idées, des souvenirs, et puis tout coller ensemble, mais qu'il n'y a pas de sens. Et puis, il y a l'autre tendance qui pense qu'en fait, tout ça est très structuré, et que c'est en fait une pensée de création pure, quoi. Et en fait, moi, c'est plutôt vers ça que j'ai envie d'aller. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si on avait avec le rêve, on avait une possibilité... de faire revenir à la conscience et de mélanger, de faire des propositions totalement inaudites que le cerveau peut pas faire éveiller parce qu'il a des contraintes morales, psychiques trop fortes et même politiques trop fortes. Et
donc vous avez écrit des choses dans ce disque magnétique que sans les rêves, vous ne vous seriez peut-être pas permise d'écrire.
Je pense que j'aurais jamais eu ces idées, ouais, ça c'est sûr. Je pense que j'aurais pas fait ces mélodies. Par exemple, il y a des mélodies, et ça m'a troublée. Il y a des mélodies, enfin, il y a des harmonies très répétitives et tout ça. Je me serais pas permis, je pense que j'aurais cherché à faire une structure de chanson normale, parce que c'est comme ça qu'on fait une chanson. Là, je me suis laissée guider par... Il y avait ces notes répétées sur Plaisir ou Agonie, il y avait vraiment ce truc, et en fait qui correspond à la musique répétitive et qui s'est beaucoup, voilà, qui est la suite logique d'une certaine réflexion de la Beat Generation, enfin voilà, de certains auteurs, musiciens qui ont côtoyé la Beat Generation, qui ont fait des expériences avec le peyote, qui ont pratiqué la transe chamanique et qui du coup, ça c'est une manière de toucher le rêve éveillé, et cette musique elle vient de là. Aussi la musique de Lamont Young avec ses drones et tout ça. Moi, j'ai mis beaucoup. On a travaillé avec Benoît de Villeneuve avec des modulaires. Il y a des drones, il y a des opéens comme ça. Il y a des synthétiseurs qui font des sons mouvants, longs, très longs, ondulants, qui correspondaient à une image du rêve. Ça m'a été donné par cette idée de toucher au rêve, à cette énergie-là, à cette énergie du sommeil. Et en fait, ça s'inscrit dans... naturellement, c'est-à-dire on retrouve finalement des gestes artistiques qui ont déjà été faits. Et ça m'a quand même un peu fasciné, quoi. Je me suis dit, en fait, je pense que c'est aussi des logiques, j'allais dire naturelles, mais presque électriques, en fait.
Presque tous nos rêves sont des conseils et des vérités qui prennent l'air à la faveur de la nuit. La clé des sons, si nous la possédions vraiment, si nous pouvions grâce à elle déchiffrer nos rêves, elle nous donnerait chaque matin des pouvoirs extraordinaires et qui changeraient peut-être notre vie de chaque jour. D'ailleurs, à mon avis, les mensonges du jour, sont révélateurs comme les songes de la nuit, bien sûr, pas les mensonges par politesse, ni les mensonges par nécessité ou par calcul, mais les mensonges faits par goût, ou bien commencés par nécessité et développés par goût, par besoin de se travestir aux yeux des autres. Oui, ces mensonges-là ressemblent beaucoup aux songes de la nuit, et ils sont révélateurs, comme eux. D'ailleurs, je crois que les gens qui ne peuvent vivre que dans le mensonge, qui mentent pour mentir, sont tout simplement des êtres qui ont, toute la journée, la nostalgie de la nuit. Pour eux, mentir, c'est se rendormir un peu, c'est retrouver et reproduire en soi-même une certaine impression nocturne, c'est rêver les yeux ouverts. Mentir, c'est rechercher sa vérité de chaque nuit. La clé des mensonges, en somme, c'est encore la clé des songes.
C'est la voix de Georges Neveu en 1951, Barbara Carlotti, qui dit que mentir, c'est avoir la nostalgie de la nuit. Et moi, j'étais très étonnée en écoutant cette archive, parce que vraiment, je pense que c'est la première fois que je faisais le lien entre songe et mensonge.
Ouais, et moi, j'ai écrit cette chanson qui s'appelle Le mensonge. Et en fait, ça me trouble beaucoup, parce que effectivement, j'avais, même si on, voilà, il y avait un indice, c'est-à-dire, je savais, en ayant écrit cette chanson, que mensonge et songe, il y avait quelque chose à voir, mais je l'avais pas du tout, mais c'est très bien. Il a raison.
Que mentir, c'est avoir peut-être la nostalgie de cet état-là, ouais. Qui serait la création pure dont vous parliez tout à l'heure, qui a lieu la nuit. Alors, pour parler un petit peu de cette chanson, le mensonge, qui est mystérieuse, qui garde une partie de son opacité, elle dit quoi ?
Elle est très mystérieuse aussi pour moi. Je sais pas. Il y avait quelque chose. Je ne sais pas d'où elle vient. En fait, pour tout vous dire, je pense que ça m'a vraiment traversé comme quelque chose. En fait, quand je dis le livre clos de tes énigmes, dedans, il y a vraiment ça. C'est-à-dire, je sais pas. Elle est venue comme ça, il y avait ce rêve de poursuite, quoi. De fuite et de poursuite. Il y avait quelque chose. Et elle raconte, en fait, je pense, quelque chose qui nous est donné dans les rêves de, parfois on a des indices des choses, dans la réalité, on peut pas les accepter. Elles sont inacceptables. Et en fait, on les voit en rêve. On les voit, mais par tout petits indices en rêve. Elles sont réinterprétées en rêve juste de manière à nous dire, en fait, on sait ça. Je sais cette réalité que j'ai pas envie de voir. Voilà. Il y a ça dans le mensonge. Mais par contre, c'est très marrant, c'est que j'ai toujours pas élucidé ce truc. Je sais pas exactement encore de quoi il s'agit, quoi.
Il parle aussi, Georges Neveu, dans cette archive, du travestissement, de l'invention presque qu'il y a dans le mensonge à se travestir. On pourrait aussi dire, parfois, puisque le mot travestissement peut être connoté négativement, mais de s'inventer, ouais. Si on prend la belle façon de se travestir. Il y a quelque chose dans la manière dont vous faites de la musique, dont vous écrivez des livres, dont vous faites des spectacles, dont vous imaginez des installations, des propositions au public, quelque chose de cet ordre-là. Pas forcément du travestissement, costume, mais de l'idée de s'inventer à chaque fois autrement, Barbara Carlotti.
Il y a toujours l'idée, en tout cas, chez moi, il y a l'idée de ne pas refaire la même chose. Et plutôt de... Alors, avec les laboratoires, par exemple, oniriques, etc., il y a plutôt une idée d'exploration, en fait, je crois, perpétuelle. Mais on peut creuser très loin dans un même sillon, donc... Donc moi j'ai l'impression quand même qu'il y a des choses que je creuse plus avant à chaque fois. Mais oui.
Comme quoi par exemple ?
C'est 4 ans à travailler sur le rêve, ça m'a permis aussi de travailler des textes. Ce bouquin de Jonathan Coe que j'ai adoré, La Maison du Sommeil. On en a vraiment fait quelque chose, je crois. Enfin. De travailler la voix, la musique, la chanson, en fait, aussi. Ça, j'ai l'impression que c'est mon terrain de base, quoi. Et après, aller chercher dans les figures du dandysme, pour la littérature ou pour la musique, c'était important aussi. Dans la dimension des rêves, etc., c'était aussi... voilà, le surréalisme, la Beat Generation, c'était aussi des tendances artistiques que j'affectionnais. J'avais besoin d'y retourner. Et puis moi, après, à chaque fois, je fais mes... Ça infuse, en fait. Ça infuse sur la musique, ça infuse sur les textes que j'écris. Je crois que c'est ça, en fait. Et puis, mais il y a toujours une volonté exploratoire. Sur le précédent album, L'amour, l'argent, le vent, j'avais besoin d'aller un peu au Japon, un peu au Brésil, comme ça. Trouver des musiques que j'avais pas encore bien... Enfin, que j'avais écoutées, qui m'avaient plu, mais que j'avais besoin de découvrir un peu dans le détail. Et voilà, et parfois, et voilà, et ça infuse, je sais pas comment dire autrement, il y a vraiment ce truc-là, pour créer, pour imaginer, pour trouver une énergie un peu nouvelle, en fait, à faire les choses.
Pour ce disque-là, vous avez écouté quoi? Vous avez été chercher quoi comme musique? Alors, vous parliez tout à l'heure de la musique répétitive, de certains synthés, de la production de certaines boucles. Ouais. Mais est-ce que vous avez écouté des musiques spécifiques?
La première, en fait, la chanson qui m'a donné envie, enfin, la chanson, l'album qui m'a donné envie de faire ce disque, je crois que c'est quand je faisais Cosmic Fantasy sur France Inter, j'avais fait une émission justement qui s'appelait... Dream Planet, je crois. J'étais déjà un peu occupée par ce truc. Et en fait, j'ai découvert à cette occasion l'album de Kevin Ayers qui s'appelle Confession of Dr. Dreams, qui est un album complètement fou, où on entend beaucoup de boucles inversées, et notamment, donc il y a cette chanson dans Confession of Dr. Dreams, alors il y a 18 minutes de chanson non-stop qui s'appelle comme ça, donc je sais pas trop le nom précisément de cette chanson, mais on y entend des boucles d'arpèges de guitare qui se croisent et qui sont inversées, et la voix de Nico... qui chante sur des échos de voix inversées comme ça. Et elle m'a rendu folle, cette chanson. Enfin, ce truc m'a rendu vraiment... J'ai pas arrêté de l'écouter. Il y avait vraiment quelque chose de très ténébreux, en même temps très lumineux, très fort comme ça, qui était porté par ça. Et après, Kevin Ayers, il chante. Alors, Kevin Ayers, il chantait avec Soft Machine avant que Robert Wyatt prenne le micro et tout ça. Voilà, il y a ce truc très expérimental aussi dans sa musique, qui est en même temps de la musique pop. Je pense que c'est vraiment ça qui m'a. Je me suis dit, il faut que je fasse un album sur les rêves parce que ça m'a fait comme une sorte de flash musical.
Oh, crépuscule, dans ma radio mentale, le son et l'image ne correspondent pas. J'entends des voix, tu sais, tu peux faire. Tu veux de moi, je vois des choses que personne ne voit. Je sais des choses que les autres ne savent pas. Je ne suis pas folle, et si je suis folle, je suis folle de toi. La nuit, dans mon extase cristal, le son et l'image se partagent, je les vois, je sais, je sens, je vois, tu sais, tu peux faire ce que tu veux de moi, je vois des choses que personne ne voit, je sais des choses que les autres ne savent. Je ne suis pas folle, et si je suis folle, je suis folle de toi.
Les architectures célestes, les motifs qui relient les êtres et tous ces feux qui nous animent. Je capte les ondes invisibles.
Mais ne t'inquiète pas, je sais aussi me taire et je peux faire ce que je veux de toi, je sais des choses que les autres ne savent pas. Je ne suis pas folle, et si je suis folle, je suis folle de toi. Radio mental, sentimental. Je ne suis pas folle, et si je suis folle.
Barbara Carlotti, on écoute un extrait de votre disque Radio Mental Sentimental. Je cherchais quelque chose, mais ce disque qui s'appelle Magnétique. Et alors bon, d'une part, cette chanson, elle fait un tout petit clin d'œil quand même aux ondes dont vous parliez tout à l'heure et à la radio mentale sentimentale. Il se trouve que pendant une année, une saison radiophonique, vous avez présenté une émission sur France Inter. C'était cosmique. C'était quoi comme expérience pour vous?
La radio. Je voulais pas du tout faire quelque chose de journalistique, donc j'ai fait quelque chose de cosmique parce que d'une part j'avais une passion non explorée pour la science-fiction et donc je voulais en faire quelque chose et je me suis dit bah la radio c'est vraiment l'endroit en fait pour ça. Et ouais, c'était pouvoir, enfin il y avait plein de choses, mais c'était pouvoir faire des playlists tous les soirs, c'est-à-dire passer la musique qu'on aime. Ça c'est d'une jouissance absolue, je trouve. Faire partager la musique qu'on aime, trouver des chemins un peu de traverse pour parler un peu de ce qu'il y a de beaucoup plus grand que nous, c'est-à-dire le cosmos et en même temps ce qui nous relie à ça. Et voilà, et la musique. La musique et la science et c'était allier mes plaisirs un peu personnels mais et les faire partager. Et c'est vrai que c'était fou. Puis bon, parler dans un micro, chanter, de temps en temps faire des concerts. Enfin, c'était vraiment, c'est comme un terrain de jeu formidable quoi que j'ai pu pratiquer. Puis inviter les chanteurs que j'adore et tout. Moi, j'ai l'impression que on m'offrait quelque chose. Enfin, c'était un cadeau énorme, je crois, pour moi. Après, je me suis aperçue aussi à quel point c'était un travail fou de faire une quotidienne. Je me suis un tout petit peu cramé le cerveau cette année-là. Parce que je faisais des concerts le week-end, et puis je faisais la radio dans la semaine, et puis j'ai fait une création qui s'appelait La Fille avec Christophe Blain, et c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais voilà, c'était Radio Mental Sentimental, la chanson, en l'occurrence, elle fait plutôt... c'est marrant parce que Radio Mental, c'est un syndrome, en fait, je crois, psychique, ou de dissociation en fait. C'est vraiment quelque chose clinique. Mais ça je l'ai écrit sans le savoir. Je l'ai découvert en recherchant. Et puis il y avait un groupe qui s'appelait Radio Mental aussi. Et ça j'ai rencontré Éric Pageot et Jean-Yves Leloup après avoir écrit cette chanson. Et donc du coup on est devenus copains parce qu'il y avait quelque chose comme ça de très étrange, comme si j'avais eu des intuitions que ça m'avait traversé. Et en fait, j'ai vu dans un carnet qui datait de 2012 que j'avais noté le nom de Radio Mental et qu'il était sorti comme ça, évidemment, dans cette chanson, qui parlait plutôt d'une expérience sous ayahuasca, où j'avais une vraie synesthésie, où je voyais réellement l'énergie des gens se déployer dans l'espace, je voyais des formes de couleurs je voyais des bulles de cristal qui se déployaient avec des harmoniques, des sons précis. Et cette expérience de synesthésie, elle m'a complètement bouleversée. Parce que tout d'un coup, je pouvais voir la musique comme je l'avais jamais vue. Donc il y avait ça, puis ça mélange plein de choses, ça peut mélanger. Enfin, il y avait aussi une idée de des idées qui nous traversent, de ce qu'on voit et ce qu'on pressent et qu'on n'arrive pas à exprimer aux autres, en fait.
Et qui est une figure très poétique. Moi, j'ai vraiment entendu une femme poète dire ses visions, en fait.
Oui, c'est ça.
Je suis la personne qui voit. C'est vraiment Rimbaud qui dit j'ai des visions, je vois des choses que les autres ne voient pas.
Oui, tout à fait. Mais il y a vraiment ça. C'est tout à coup se permettre, en fait, de croire à ce qu'on, à ce qu'intimement on voit, en fait. On entend, on voit, on sait. qu'on voilà, de faire confiance à ça. Et ça, c'est voilà, pour moi, c'était assez inédit en fait. Et c'est j'ai demandé à Olivier Marguerite de faire la musique de cette chanson parce que j'ai adoré, mais vraiment adoré son album
qui est tellement beau.
Qui est tellement beau, voilà. J'étais bouleversée par sa musique et je voulais vraiment faire une collaboration avec lui. Il a fait les guitares acoustiques sur cet album, sur tout cet album, et j'étais vraiment ravie. Et je lui ai confié en fait ce texte parce que je savais qu'il avait cette, il y a quelque chose de l'ordre de la ferveur dans sa musique. Et voilà. Et je savais qu'il allait pouvoir donner le souffle possible à ce texte en fait.
Et c'est une musique qui, je trouve, vous rend puissante. Moi, vraiment, dans cette chanson, j'entends aussi une forme d'omnipotence. Vous parliez de confiance, mais moi, j'entends vraiment quelque chose de la puissance qui se retrouve sur d'autres titres, qui sont des personnes qui parlent en puissance, qui parlent de jouissance, qui parlent de corps, qui parlent de vision, qui parlent d'envol. C'est un album qui dit beaucoup cela, moi, je trouve, qui dit beaucoup la puissance.
Alors je sais pas. En fait, moi, comme vous disiez au début de l'émission, j'ai vraiment laissé parler quelque chose en moi qui n'est pas la personne consciente. Mais j'avais un certain plaisir, une jouissance en tout cas à le faire parce que du coup, il y avait beaucoup de choses plus érotiques, il y avait des choses plus sensuelles, il y avait des choses, ouais, c'est plus tendancieux quoi. C'est-à-dire, je pense que s'autoriser ce langage-là, ça m'a libérée, je pense. Mais je sais pas si c'est de la puissance. En tout cas, pour moi, il y a aussi toujours. Je sais pas. Là-dessus, je pourrais pas dire. Je sais que quand j'ai construit ces chansons avec cette idée que c'était autre chose que moi qui parlais. C'était des choses qui me traversaient, qui étaient pas forcément moi. Par exemple, dans Phénomène Composite, quand je dis que toutes les femmes sont hermaphrodites, c'est vraiment des visions que j'ai eues en rêve et j'ai décidé d'assumer ça, en fait. Mais du coup, assumer quelque chose qui peut paraître fantasque, mais dans lesquels je vois des indices aussi des problématiques qu'on se pose sur les femmes aujourd'hui, si on veut parler de femmes puissantes, en fait.
Mais parce que cette chanson-là, j'y faisais évidemment référence sans la nommer, mais une parole qui dit « Viens dans ma chambre », peut-être tu comprends pas, mais tu vas voir, ça va probablement te plaire. Je pense là, comme ça, en vous écoutant au dernier film de Mandico et à cette expérience sur une île et à la possibilité de faire l'expérience de la jouissance et de voir ce que ça peut prodiguer et de le dire à partir d'un corps qui se pense multiple, qui ouais. refuse d'être dans une seule des cases, qui dit que être multiple et pas seulement deux d'ailleurs, ben ouais. c'est beau et c'est possible et ça donne de l'élan. Enfin, c'est en ça que je parle de puissance, c'est plutôt à cet endroit de l'élan en fait.
Oui, voilà, c'est ça. En tout cas, il y a il y a une ferveur et il y a une puissance, disons, musicale peut-être. Il y a un souffle musical assez vaste, je sais pas comment dire. Ça dépend des chansons, mais il y a ça, quoi. Mais oui, mais en fait, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont dites dans les textes, qui sont de l'ordre d'une sorte de complexité plus grande et en même temps qui s'amuse de l'être et qui est pas du tout qui est libre en fait. Par les temps qui courent, Marie Richeux.
La bonté. Pour chanter, voyez-vous, et cela est une bien vieille histoire, pour chanter, oh, il ne faut pas être méchant. Il ne faut pas avoir envie d'être méchant. Et puis, si l'on est méchant quand on commence, cela cesse bien vite. Chanter, c'est déjà un signe d'amitié. C'est déjà un signe d'accord avec ce qui nous entoure et ceux qui nous entourent. Eh bien, la chanson française d'aujourd'hui tient un grand compte de cette bonté. Oh, elle ne dit pas bonté. Elle ne dit pas même amitié, c'est du moins assez rare. Elle emploie d'autres mots, toutes sortes de mots. Elle raconte de petites histoires qui n'ont pas l'air d'avoir de rapport avec mon sujet. Et pourtant, mon sujet, c'est aussi le leur.
Bon, c'est un petit cadeau.
C'était qui?
Cette archive. C'est quelqu'un qui s'appelle Jacques Luceron, 1956, bon, sur la très belle musique de Fuck Buttons. Voilà, voix venue d'autre part, venue de Lina, mais d'autre part.
Mais génial!
Qui parle de la bonté, Barbara Carlotti. Chanter, c'est forcément avoir quelque chose de cet ordre-là, la bonté, voire l'amitié. Et moi, ce que j'ai entendu dans cette voix aussi, c'est l'accord.
Ouais, bien sûr, bah, c'est la volonté d'harmonie, je pense, quand on chante. Il y a vraiment ça, quoi. Et puis aussi de... J'étais hyper timide avec ça très longtemps et en fait tout d'un coup je me suis dit...
Avec quoi? Avec le chant?
Avec le chant, ouais. J'avais peur de mal faire, je pense. Il y avait plein de choses. Il y avait le fait de venir d'une famille qui est absolument pas artiste ni musicien et du coup de pas se permettre. Mais un jour j'ai découvert ça, effectivement. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du partage, de l'amitié, de l'harmonie, de la volonté d'harmonie dans le chant. Et donc on peut chanter n'importe quand, n'importe comment en fait. On doit se le permettre. Enfin, il y a quelque chose. Ça m'a complètement quand j'ai découvert qu'il n'y avait pas d'hésitation à avoir là-dessus. À cause de ça, à cause du fait que oui, pour chanter, il y a vraiment quelque chose. Mais moi, je suis d'accord. Il y a quelque chose de l'ordre de la bonté, vraiment. Ouais.
Vous l'avez découvert comment? À partir de quand vous vous êtes dit c'est complètement autorisé?
Pas très longtemps. ouais, c'était ces dernières années.
Et ça a changé des choses profondes parce que vous chantez depuis quand même un peu plus longtemps alors quand même.
Je pense que au tout début autorisé. j'avais peut-être moins de complexes parce que j'avais une volonté gigantesque parce que je voulais faire ça. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai eu je pense que ça se modifie, son rapport au chant, il se modifie. Et j'ai commencé à voir à quel point il y avait des choses qui m'entravaient, qui étaient pas de l'ordre musical, qui étaient vraiment plus intérieures. Et puis à un moment donné, il y a eu cette découverte que il y avait pas d'hésitation à avoir, que c'était une forme de générosité envers les autres, envers soi-même aussi, et que il fallait faire sonner, résonner sa voix dans la musique. Et qu'il fallait le faire à plusieurs, à plein, tout le temps, que c'était quelque chose vraiment qui enrichissait, voilà, c'est des harmonies qu'on fait sonner, avec les autres, et c'est un partage, ouais, et puis il y a quelque chose de, ouais, il faut, en fait, on peut pas sonner quand on n'est pas juste avec soi-même. Il y a quelque chose de, donc c'est à plein de niveaux, le chant, c'est magnifique.
Donc, ça veut dire que ça a changé des choses dans votre manière de chanter ou la manière dont ça
peu, ouais.
Bouge en vous quand vous chantez.
Je pense qu'il y a plus. Alors il y a une volonté d'être plus précise aussi, et puis il y a une volonté d'être plus abandonné à sa voix. Et sa voix, elle peut. Elle est pas cantonnée à juste quelque chose. Elle peut bouger, quoi. Elle peut évoluer. Elle peut prendre plein de formes. On peut s'amuser beaucoup plus. Je pense que quand on commence à chanter, on essaye de trouver son identité vocale et puis on la trouve. Et puis après, il faut en faire quelque chose. Sa manière de chanter, la manière dont les mots sonnent dans notre bouche, quels mots on veut raconter quand on chante, etc. Tout ça, c'est des questions qu'on se pose forcément quand on écrit ses chansons. Et puis au bout d'un moment, il y a aussi comment on fait sonner ça avec son corps et comment on joue aussi et comment en fait on peut expérimenter plein de voix. Et moi, je crois que je commence à me dire que je peux vraiment faire sonner ma voix de plein de manières différentes et que c'est toujours soi et que c'est voilà et que c'est toujours mais que c'est des expériences à faire quoi. Il ne faut pas se cantonner simplement à ce qu'on trouve au départ.
Quand vous disiez qu'au départ, vous étiez porté par quelque chose de très fort, qui était la volonté et la certitude de vouloir faire ça, ça voulait dire quoi, faire ça?
Chanter ses chansons, trouver son expression là-dedans, c'est-à-dire la musique me bouleversait et je voulais coller à ça et l'endroit que j'ai trouvé pour le faire, c'était la chanson. Parce qu'il y avait quelque chose d'à la fois concis, économe quelque part dans la chanson. En peu de temps, on construit quelque chose, un monde, une proposition, un voyage, un plan séquence. Voilà, on construit quelque chose en peu de mots et en peu de temps. Donc, il y avait cette concision qui me plaisait bien. Et puis ensuite, voilà. Après, on développe, on cherche, on essaye de. Ouais, je crois qu'on construit aussi son identité en faisant ça, quoi. Et puis après, voilà. C'est pour ça que moi j'ai besoin d'enrichir avec des recherches, avec aller chercher ailleurs aussi, pas que dans soi-même, mais vraiment dans d'autres, dans des expériences, dans des voyages, dans la littérature, dans le cinéma, dans d'autres formes, dans de musique aussi, chez d'autres auteurs, chez d'autres compositeurs, comme ça, des sources d'inspiration pour enrichir son langage et puis le développer, quoi.
Quand je suis absorbé par la connaissance des objets dans le monde, par le déploiement du doute qui doit me conduire à la certitude, je m'occupe des choses. Je ne pense pas à moi, à mes fins, à mon bonheur, mon salut. Au contraire, je suis content de m'oublier moi-même en acquérant ces nouvelles connaissances. Cela change lorsque je prends conscience de moi-même dans ma situation. Épictète, le stoïcien, a dit « L'origine de la philosophie, c'est l'expérience que nous faisons de notre propre faiblesse et de notre propre impuissance. » Comment me tirer d'affaire dans cette impuissance? Il a donné la réponse suivante: il faut que je considère tout ce qui n'est pas en mon pouvoir, de par sa nécessité propre, comme indifférent pour moi. En revanche, il m'appartient d'amener par la pensée tout ce qui dépend de moi, notamment le mode et le contenu de mes représentations, à la clarté et à la liberté. Considérons un peu quelle est notre condition, à nous, hommes. Nous nous trouvons toujours dans des situations déterminées. Les situations changent, des occasions se présentent. Quand on les manque, elles ne reviennent plus. Je peux travailler moi-même à changer une situation. Mais il en est qui subsistent dans leur essence, même si leur apparence momentanée se modifie et si leur toute-puissance se dissimule sous un voile. Il me faut mourir, il me faut souffrir, il me faut lutter. Je suis soumis au hasard. Je me trouve pris inévitablement dans les lacets de la culpabilité. Ces situations fondamentales qu'implique notre vie, nous les appelons situations limites.
J'avance sans peur dans la dead zone de toute la peur, tenir aux choses, à marcher seul sur le volcan, le feu déclenche parfois le vent, le doute est un collier d'épines, je reste pour percer.
aussi c'est un tout petit peu nouveau, ces cuivres fanfaronnants, ouais, Barbara Carlotti.
C'est la première fois que j'écrivais pour des cuivres. J'avais appelé Thomas de Pourquerie qui joue du saxophone là avec Daniel Zimmerman au trombone et Fabrice Martinez. Et j'avais appelé Thomas en lui disant, écoute, je veux que tu m'écrives des arrangements de cuivres. Et puis j'ai fait des trucs, mais tu verras, c'est au synthé, je sais pas. Et il m'a dit non. Il m'a dit non, Barbara, tu vas au bout de son truc et tu sais très bien ce que t'as écrit. Et il faut juste que tu en fasses des partitions et on les interprétera. Et c'était un peu Penny Lane, quoi. C'est un peu le côté un peu baroque de la pop 60s que j'adore. Ça m'est venu un peu comme ça, mais j'étais très contente. Il y a quelque chose d'hyper joyeux, solaire, entraînant que et j'étais assez fière en fait d'être allée au bout. Il y a d'autres cuivres sur d'autres morceaux, mais sur celui-là particulièrement, parce que je pense que ça, mes années de conservatoire, de musique classique qui sont revenues un peu. Un peu spontanément comme ça.
C'est une forme de ronde, cette chanson-là. Ouais. En effet, très solaire, très dansante. On n'a pas beaucoup parlé de la manière dont le corps est présent dans ce texte, parce qu'on a beaucoup parlé du rêve, du sommeil, d'une oui. forme comme ça d'absence. Mais le corps est omniprésent dans
le corps,
il danse beaucoup, il prend beaucoup de plaisir, il emmène en fait. C'est vraiment un corps qui emmène. Et dans cette chanson, on est vraiment du côté de la lumière. Et je me dis que peut-être ça a à voir avec le plaisir que vous prenez à partager votre musique sur scène, à ouais. être là physiquement de cette manière-là, sans hésitation, pour reprendre vos mots tout à l'heure.
Oui, j'adore être sur scène. Et effectivement, faire de la musique, c'est ce qu'il y a de plus jouissif pour moi et d'agréable. Et c'est un vrai moment de... C'est un peu impossible de dire ça, mais c'est un vrai moment de partage, vraiment. Et surtout parce que je pense que la scène, c'est comme un peu l'espace des rêves. C'est un espace où on peut tout se permettre. Parce que voilà, c'est circonscrit, ça va durer une heure et demie ou deux heures et on a le droit, on a vraiment tous les droits. Mais après, il y a un travail très précis de musique qui vient soutenir tout ça. Mais c'est un vrai moment de vie très intense, quoi.
Et ça aussi, ça évolue avec les années. Vous disiez que petit à petit, votre ouais. rapport au chant, à la musique avait bougé. Qu'est-ce qui a bougé dans le rapport à la scène ?
Là, déjà, je joue du clavier, ce que je faisais pas avant, ce que je me permettais pas, j'aurais dû le faire un peu plus tôt, je pense. Jouer plus de musique, ouais. Après, je crois qu'il y a toujours cette espèce de joie d'improviser, de dire des choses entre les chansons, et en même temps ça bouge aussi sur, on est plus à l'aise avec le public, on sait un peu mieux le manipuler. Il y a aussi ça, quand même. Il y a toujours, les gens viennent vous voir, ils attendent quelque chose de vous. Et donc, on peut leur faire des propositions. Il y a quand même ça qui est super agréable.
Quel genre de proposition, quand vous dites les manipuler, c'est-à-dire les mettre dans un certain état, leur proposer justement des...
Une petite séance d'hypnose, ça j'ai fait, ça c'est bien, ça marche. Ça marche très bien. Dans les laboratoires éniques, j'ai fait des séances d'hypnose. Là, il y a des Dream Machines sur scène. Donc je vais leur proposer de venir faire l'expérience de la Dream Machine, mais il y a aussi les faire danser, les faire chanter, et les faire réagir, quoi, à certaines choses qu'on dit. C'est une douce manipulation, bien sûr.
Quand vous dites que vous avez toujours aimé danser, même il y a d'autres chansons qui parlent de votre amour pour la beauté du geste, pour des postures, ça veut dire que c'est concomitant, quand la musique vous bouleversait, qui vous a emmené à en faire, c'est concomitant, bouger ou sentir la musique dans son corps et vouloir en produire?
Ouais, c'est un mouvement, la musique, donc... Le corps se met en mouvement, ouais, ça c'est sûr. Moi, je voulais être danseuse à la base, quand j'étais toute petite, vraiment toute petite.
Avant chanteuse.
Je voulais, et puis on m'a interdit d'être danseuse, vraiment, on me l'a dit que j'étais pas assez gracieuse, j'avais 5 ans, je pouvais pas rentrer dans le cours de danse. On m'a éjecté en me disant que ça allait pas du tout. J'ai fait un cours, on m'a dit non, allez, toi tu dégages. et en fait, ça m'a beaucoup frustrée, c'est une très grande frustration. Et donc après j'ai pas osé, je crois que je me suis jamais autorisée vraiment à danser parce que je pensais que j'étais pas du tout faite pour ça. Mais j'ai participé à des spectacles avec la Compagnie des Prairies, j'ai fait plein de choses qui me permettaient de faire bouger mon corps. Mais la musique c'est aussi une forme de en tout cas c'est une forme de mouvement, voilà.
Ce que disait cette archive-là, dont apparemment vous appréciez le craquement de 1950, c'était une lecture d'un texte de Karl Jaspers.
Le lyrisme.
Un lyrisme qui se craquelait lui aussi à mesure que la lecture de Karl Jaspers avançait avec de plus en plus d'hésitation. C'était une réflexion aussi sur le doute, sur la manière dont ça s'immisce. Il y a une chanson qui y revient très clairement de manière répétitive sur la question du doute. Mais si j'ai beaucoup parlé d'élan, de corps qui emmène, de puissance, c'est là la question du doute, de la réflexion, de l'ambivalence. Et là aussi, au même titre, vous diriez, Barbara Carlotti.
Alors la question du rêve, c'est d'abord la question du doute, c'est-à-dire pourquoi on voit toutes ces choses et est-ce qu'elles sont réelles en fait. Et donc il y avait plein de choses. Le doute, évidemment, il y a toujours du doute. Et moi, j'ai quand même traversé quelques années un peu compliquées là, après que ma maison disque est fermée. Et il y avait cette question du doute qui était très présente effectivement, genre pourquoi on fait les choses, comment on les fait, pourquoi, avec qui on veut les faire, etc. Mais la vie c'est ça, le rêve c'est ça, c'est-à-dire que les scénarios qu'on nous propose en rêve, ils sont aussi réels que ceux de la réalité. Et en fait, qui nous dit pas que c'est ça en fait, la réalité et pas le contraire. C'est toujours cette question en fait, c'est le rêve dans le rêve dans le rêve dans le rêve, on sait pas en fait, on sait pas si ce qu'on touche là ah vraiment, on est
plus tangible que ce à quoi vous avez rêvé
voilà.
Cette nuit.
Et puis c'est l'idée des réalités quantiques quoi. Dans quelle dimension on est en fait. Donc il y a plein de voilà, c'était ça l'idée du doute, mais ça c'était aussi une idée plus générale sur effectivement on traverse des très grands moments de doute je pense dans une vie d'artiste et de remise en question et voilà et ça participe du travail en fait, je pense aussi.
Quand vous vous êtes demandé pourquoi est-ce que vous faisiez ces choses-là, avec qui vous aviez envie de les faire, à quoi bon faire de la musique en fait, ça a été jusque-là ou pas?
Ouais, bien sûr.
Et comment y répondez-vous? C'est pas facile de répondre à pourquoi je fais de la musique, comment je vais en faire et avec qui.
En travaillant, je pense que c'est la seule réponse, c'est en allant au bout de ce qu'on est en train de faire en fait. Je crois que moi j'ai mis longtemps à faire cet album. Et je pense que là, de l'avoir fait advenir, ça m'a fait, je pense, ça a décalé un petit peu la façon dont je voulais faire les choses, les modalités de composition, ça, plus de conscience dans la façon dont je l'ai fait, dont je manipule le langage musical, dont je veux chanter aussi. Enfin, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure sur la voix aussi, comment on veut utiliser sa voix, etc.
Donc, c'est des questions que des résonances intimes ou vous vous posez aussi la question dans le monde, c'est-à-dire pourquoi vous chantez, vous vous le posez à vous-même cette question-là, ou vous vous dites pourquoi chanter dans le monde, pourquoi chanter dans une existence, pourquoi faire
oui,
ça de sa vie.
Bien sûr, c'était toujours l'infiniment grand rejoint l'infiniment petit. Non mais l'intime rejoint forcément le général, ouais, forcément. Oui, bah bien sûr, mais c'est pour ça que ce que je disais, c'est vrai que l'archive sur la bonté de chanter, c'est ça, je pense qu'il y a, c'est quelque chose qu'il faut faire en fait, en société, je pense vraiment, je pense que c'est très utile.
Et vous le faites beaucoup, ça habite vos journées, chanter avec les autres, chanter toute seule?
Bah chanter avec les autres forcément un peu, puisque c'est mon métier, mais oui, et en tout cas, par exemple dans ma famille, j'ai découvert ça, c'est-à-dire de tout d'un coup d'initier ça, c'est-à-dire allez on chante en fait. On chante ensemble, on chante le soir, chacun vient avec des chansons, on fait ça. Et on partage des moments exceptionnels où on n'a pas besoin de se parler, de parler de, oui, de ce qui se passe dans la société, de grave, de compliqué, qui parfois amène des tensions au sein d'une propre famille. Non, en fait, ça éradique aussi. Ça permet d'autres choses, en fait, le chant.
Et vous chantez quoi, sans indiscrétion?
Ça dépend. Mon père, il chante beaucoup de chansons corses. Mais ma mère connaît toutes les chansons corses, donc ils les chantent à deux, ça c'est très drôle. On chante, mais ils connaissent aussi plein de trucs. Enfin, je sais pas, on chante Prince, on chante Bob Dylan, on chante Barbara, on chante plein de choses très différentes. Même des choses plus récentes, des chansons des copains.
Bah, vive vos dîners de famille, Barbara. Votre disque s'appelle Magnétique. Il est paru chez Elektra, chez Warner. Et vous serez en concert le 30 mars. Mais c'est complet?
Non, le 30 mars, c'est à la FNAC Forum des Halles. Et c'est pas complet parce que c'est gratuit. Et je sais pas, c'est les gens qui qui veulent venir viennent. C'est complet le 5 avril aux Étoiles, malheureusement.
Aux Étoiles, c'est complet. Mais pour ceux qui ont de la mémoire, ils noteront dans leur carnet, ou qui n'en ont pas, vous avez qu'à faire un nœud à votre mouchoir, parce que le 4 décembre, ce sera la Gaîté Lyrique. On peut aussi parler du 4 mai à Saint-Jean-de-Védas, à Nantes, le 6 novembre prochain, et probablement des choses entre.
Oui, il va y avoir une tournée. En fait, la tournée est en train de se monter en ce moment. Donc, à partir de la rentrée, il va y avoir plein de dates.
Par les temps qui courent, vers où regardez-vous ?
La lumière.
Par les temps qui courent, qu'est-ce qui vraiment ne vous fait plus du tout rire ?
La peur des autres.
Et par les temps qui courent, à qui donnez-vous la main ?
À l'amour.
Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h sur France Culture en direct et quand vous voulez sur franceculture.fr ou en podcast. Au son ce soir, c'était Éric Boisset à la réalisation, Lise-Marie Barré. Jeanne Aléos, Romain de Bec de Lièvre, Oriane Delacroix me donnent la main pour préparer cette émission. Quant à moi, je réponds @MarieRicheux sur Twitter.